La place de la France dans le monde. Quelle place la France occupe-t-elle dans le nouvel ordre mondial? A. La 4e République entre guerre froide, construction européenne et décolonisation. 1. La fracture de la guerre froide. Née en 1946, la 4e République est un régime d'assemblée. Mais les partis politiques sont divisés, aucun ne possède la majorité à l'Assemblée nationale. Une coalition gouvernementale est mise en place par les principaux partis, le Parti communiste français, PCF, la SFIO des socialistes et le MRP des démocrates chrétiens. Ils gouvernent ensemble jusqu'en mai 1947, c'est le tripartisme. La guerre froide empêche toute coalition durable. En mai 1947, le PCF, qui souhaite une politique plus sociale et soutient l'URSS, est exclu du gouvernement. En 1949, la France accepte l'aide du plan Marshall et entre dans l'Alliance Atlantique. 2. La France au cœur de la construction européenne. Le 9 mai 1950, l'un des pères fondateurs de l'Europe, le ministre des Affaires étrangères Robert Schuman, propose la mise en commun de la production d'acier et de charbon entre la France et la RFA. La Communauté économique du charbon et de l'acier, CECA, est instaurée en 1951 et réunit finalement la France, la RFA, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg dans une organisation politique supranationale commune et dirigée par une haute autorité présidée par Jean Monnet. Mais le projet de défense commune divise les partis politiques français. L'idée de Communauté européenne de défense, CED, est abandonnée en 1954. En mars 1957, les 6 pays de la CECA signent les traités de Rome qui créent un marché commun, la Communauté économique européenne, CEE. 3. La décolonisation divise les partis politiques. Les tensions sont fortes entre le PCF et les autres partis au sujet de la guerre d'Indochine 1946-1954. Les communistes prennent parti pour la décolonisation. C'est au sujet de la guerre d'Algérie 1954-1962 que les tensions politiques sont les plus fortes à l'Assemblée nationale. L'instabilité ministérielle est importante. Il devient finalement impossible de construire une majorité stable à cause des problèmes géopolitiques en Afrique du Nord, indépendance négociée du Maroc et de la Tunisie en mars 1956. B. De la crise algérienne à la 5e République. 1. L'agonie de la 4e République. Le 1er novembre 1954, le Front de Libération Nationale, FLN, proclame l'indépendance et commet une série d'attentats. C'est le début de la guerre d'Algérie. Le FLN s'engage dans une lutte armée radicale contre la France, mais aussi contre les Algériens indépendantistes modérés menés par Messali Hadj, attentats, tortures. La guerre, répression, torture, mobilisation de plus d'1,5 million de soldats français, divise les partis politiques. La désignation comme président du Conseil de Pierre Flimelin, favorable à une solution négociée en Algérie, provoque la colère des partisans de l'Algérie française. Le 13 mai 1958, de grandes manifestations à Alger donnent lieu à un coup de force de l'armée qui demande le retour du général de Gaulle au pouvoir à Paris. Malgré une opposition politique fondée sur la peur d'un coup d'État, menée notamment par Pierre Mendès France, de Gaulle est investi président du Conseil par l'Assemblée nationale le 1er juin 1958. 2. La 5e République et la fin de la guerre d'Algérie. De Gaulle obtient le 2 juin les pleins pouvoirs pour 6 mois, avec pour mission de réformer la Constitution et de résoudre la question algérienne. Il met en place la 5e République. La Constitution, adoptée par référendum, instaure un régime semi-présidentiel qui remplace le régime parlementaire de la 4e République. En décembre 1958, de Gaulle est élu président de la République par les grands électeurs. À partir de 1962, l'élection du président de la République se fait au suffrage universel direct. Les partisans de l'Algérie française sont déçus par la politique de De Gaulle qui a engagé des négociations avec le FLN alors qu'il semblait favorable à l'Algérie française. Le putsch des généraux à Alger, le 22 avril 1961, ou les attentats commis par l'organisation armée secrète OAS en 1961-1962, ne permettent pas de maintenir de force l'Algérie française. Finalement, les accords d'Évian entre la France et le FLN sont signés le 19 mars 1962, ils proclament un cessez-le-feu. L'Algérie est indépendante le 5 juillet 1962, près d'un million de pieds noirs et des dizaines de milliers de harkis quittent l'Algérie pour la France. 3. Les mémoires blessées de la guerre d'Algérie. Les mémoires de la guerre d'Algérie sont multiples. Mémoires du FLN, des harkis, des pieds noirs, des membres de l'OAS, des soldats français. Chaque groupe sort du conflit avec des mémoires blessées. Afin d'éviter toute tension dans la société, la Ve République organise une politique de l'oubli. Mais les mémoires sont partiellement enfouies. Elles donnent parfois lieu à une guerre des mémoires entre groupes mémoriels en mal de reconnaissance. Il faut attendre 1999 pour que la Ve République reconnaisse qu'il s'agit d'une guerre au sein de départements français et non plus simplement d'opérations de maintien de l'ordre. De nos jours, la tendance est plutôt à l'apaisement mémoriel par la reconnaissance officielle des différentes mémoires. Néanmoins, certains points restent encore source de tensions, reconnaissance des harkis, célébration des accords d'Évian. C. Une certaine idée de la France, de Gaulle. 1. L'indépendance nationale. En 1962, la France n'est plus une puissance coloniale. Les autres territoires français d'Afrique sont décolonisés en 1960. Mais elle se maintient comme puissance mondiale, notamment grâce à la dissuasion nucléaire, bombe atomique en 1960. De Gaulle s'oppose à la domination des deux superpuissances et mène une politique d'indépendance nationale, retrait des forces militaires françaises de l'OTAN en 1966. La France reste néanmoins au sein de l'Alliance Atlantique et du Bloc de l'Ouest. De Gaulle refuse que la CEE mette en place une politique européenne fédérale remettant en cause la souveraineté française. Favorable à la coopération entre pays européens, notamment à partir du couple franco-allemand, traité de l'Élysée en 1963, il s'oppose à toute progression vers davantage de supranationalité au sein de la CEE. 2. La modernisation du pays. De Gaulle défend l'action d'un État entrepreneur qui accorde des aides publiques aux groupes industriels, investit dans l'informatique et l'aérospatiale, programme franco-britannique du Concorde, 1962, et franco-allemand d'Airbus, 1967. Pendant les années de Gaulle, 1958-1969, la France entre dans la société de consommation et connaît une forte croissance du PIB. Cette prospérité est liée à la politique économique gouvernementale, contrôle de l'inflation, création du nouveau franc en 1960, planification économique, investissement productif. Mais elle profite aussi de la reprise économique mondiale au temps des Trente Glorieuses.